Le journal de la rédaction vous est présenté par Claire Flochère. Bonsoir.
Bonsoir à tous. On apprend seulement aujourd'hui qu'il a claqué la porte. L'un des rapporteurs de la commission des comptes de campagne a démissionné après avoir émis des réserves sur une partie des comptes d'un candidat. Explication de Louis-Valentin Lopez au début de ce journal. Un hommage sans discours ce matin, hommage sobre aux victimes des attentats de janvier 2015. 11 morts dans la rédaction de Charlie Hebdo, 4 morts à l'hypercachère de la porte de Vincennes, où la communauté juive était présente pour se recueillir. Vous entendrez le reportage d'Eva Jednak. L'Urwa doit disparaître. Benjamin Netanyahou réitère son appel à démanteler l'Agence des Nations Unies pour l'aide aux réfugiés palestiniens. Nous rejoindrons notre correspondante en Israël, Marine Vlaovic. Icône de la chanson française, France Gall n'appartenait pas à une génération. Elle a su s'adresser à toutes. Le tweet est signé Françoise Nyssen, la ministre de la Culture. Les réactions sont nombreuses depuis ce matin, depuis qu'on a appris la mort de la chanteuse. Pour en parler avec nous, Mathieu Conquet, le monsieur musique de France Culture. Et dans 14 minutes, Julie Gacon.
Nous parlerons des fake news ou fausses nouvelles dont on dit qu'elles portent atteinte à la crédibilité de l'information et pourrissent la vie démocratique. Emmanuel Macron a annoncé qu'une loi était à l'étude pour les empêcher de proliférer. Est-ce une vraie nouvelle? On en parle avec le philosophe Gérald Bronner et l'historien Patrick Evenot, président de l'Observatoire de la déontologie et de l'information.
A tout à l'heure, Julie. Que se passe-t-il dans les arcanes de la commission chargée de contrôler les dépenses des candidats à la présidentielle? L'un des rapporteurs a en tout cas claqué la porte, selon Le Parisien. L'homme était chargé d'éplucher les comptes de Jean-Luc Mélenchon. Sur les 10,7 millions de dépenses, 1,5 million serait litigieux, selon lui. Mais la commission ne suit pas son avis. Elle demande à son rapporteur de revoir ses exigences à la baisse. Bonsoir Louis-Valentin Lopez.
Bonsoir Claire.
Pour bien comprendre, il faut remonter un peu le temps.
Oui, tout part d'une lettre de démission citée dans Le Parisien. La date d'envoi, 22 novembre. Le rédacteur Jean-Guy de Chalvron, ancien haut fonctionnaire et donc rapporteur à la commission chargée de vérifier les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Premier grief, cette somme, selon ses mots, litigieuse. 1,5 million d'euros pour le rapporteur. Elle ne devrait pas être remboursée au candidat de la France Insoumise sans pour autant que tout son compte de campagne soit rejeté. Mais il y a aussi un deuxième grief, plus global. Jean-Guy de Chalvron évoque, je cite, de graves dysfonctionnements de la commission. Le système serait trop opaque et les moyens insuffisants pour éplucher les comptes des 11 candidats à la présidentielle.
Et Louis-Valentin, ce n'est pas la première fois que le manque de moyens est évoqué.
Et ce n'est pas un intervenant extérieur qui souligne ce manque de moyens, Claire, mais le président de la commission lui-même, François Laugereau. C'était en décembre 2012, Nicolas Sarkozy avait outrepassé largement le seuil de dépenses autorisées pour la campagne de 18 à 31 millions d'euros. Problème, la commission n'avait décelé au départ un dépassement que de 364 000 euros. Elle était totalement passée en fait à côté du système des fausses factures. Il faut attendre l'affaire Big Malion 2 ans plus tard pour connaître les vrais chiffres. Alors peut-on parler de la démission de Jean-Guy de Chalvron comme un nouveau symptôme de dysfonctionnement de la commission? En tout cas, selon Le Parisien, 2 voire 3 autres rapporteurs auraient aussi claqué la porte.
Louis-Valentin Lopez, merci beaucoup. Julien Drey, éventuel candidat à la tête du Parti Socialiste, j'y pense et pas seulement en me rasant. C'est ce que l'élu du Conseil Régional d'Île-de-France a déclaré chez nos confrères de France Inter. Les candidats à la succession de Jean-Christophe Cambadélis sont jusqu'à la fin du mois pour se faire connaître, le 27 janvier précisément, pour une élection le 29 mars. Des cérémonies sobres, conformément aux souhaits des familles, 3 ans jour pour jour après l'attentat contre Charlie Hebdo. Emmanuel Macron a rendu hommage aux victimes ce matin, 12 morts et 11 blessés. Le chef de l'État s'est aussi rendu sur le boulevard Richard Lenoir dans le 11e arrondissement où un policier avait été tué le même jour par les frères Kouachi. Puis une cérémonie similaire était organisée devant l'hypercachère Porte de Vincennes où 4 personnes avaient été tuées 2 jours plus tard, le 9 par Hamedi Koulibaly. La communauté juive était bien sûr présente, Eva Jednak.
Oui, les associations, mais aussi quelques riverains qui ont pu assister à la cérémonie. Parmi eux, David, il est membre de la communauté juive du quartier. Il a été particulièrement touché par l'hommage républicain.
J'ai vu le président Macron qui était là, on a été très émus. Je me suis senti plus que jamais citoyen français avec cette minute de silence que nous avons tous observée, ainsi que la Marseillaise que nous avons écoutée et chantée en même temps.
À ses côtés, sa mère hoche la tête, mais trop émue, elle ne peut pas parler. Il y a 3 ans, quelques heures avant l'entrée d'Amédi Coulibaly dans l'hypercachère, elle terminait quelques courses en prévision du Shabbat. Le vendredi soir, le magasin est particulièrement fréquenté. Valéria, une voisine, se rappelle, elle était elle aussi sur le point de s'y rendre.
Moi, je partais, c'est mon fils qui m'a appelé en hurlant parce qu'il savait que j'y allais. Donc, mes enfants, ils étaient bloqués à l'école, ils n'avaient plus le droit de sortir. Bon, c'était tout un truc, on a vécu un enfer. Et puis, on a vécu l'enfer de voir des gens mourir pour le fait d'être juif, quoi. C'est horrible.
Et c'est justement ce symbole que tient à rappeler le directeur du CRIF, Robert Egenès, à la fin de la cérémonie. 4 hommes sont morts à l'hypercachère, tués pour leur religion.
Jusqu'à hypercachère, seuls les symboles de la République étaient frappés. C'est-à-dire qu'on l'a vu ce matin, on a commémoré la mort des journalistes de la Liberté de la Presse, de Charlie Hebdo, on a commémoré la mort de policiers qui sont tombés dans l'exercice de leurs fonctions, qui sont des symboles de la liberté de la République. Ici, on commémore des juifs qui ont été tués parce qu'ils étaient juifs, donc c'est quelque chose de très important pour nous.
L'association appelle à un nouvel hommage populaire, cette fois toujours devant l'hypercachère Porte de Vincennes. Ce sera après-demain, le 9, le jour de la date anniversaire.
Reportage signé Eva Jednak, merci beaucoup. Demain, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb représentera le président de la République en visite en Chine pour un hommage cette fois à Clarissa Jean-Philippe à Montrouge, au sud de Paris. Cette jeune policière, appelée pour un banal accident de la circulation, avait été assassinée en pleine rue par Amédi Coulibaly le 8 janvier 2015. Emmanuel Macron est donc en route pour la Chine. Il a pris l'avion tout à l'heure, juste après avoir participé aux commémorations. Premier déplacement en Asie du chef de l'État. La Chine, c'est le passage obligé pour toutes les négociations internationales et économiques. Julie-Marie Lecomte.
Dans l'actualité brûlante, il y a bien sûr le dossier nord-coréen. La Chine a un rôle tout particulier à jouer pour pacifier les relations avec la Corée du Nord, disait jeudi Emmanuel Macron lors de ses vœux au corps diplomatique. Mais la Chine est comme la France membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il faut donc aussi parler de la Syrie, de la lutte contre le terrorisme, y compris en Afrique où elle a beaucoup d'intérêts économiques. Emmanuel Macron voudrait notamment qu'elle s'implique dans le financement de la force G5 Sahel. Et puis contrairement aux États-Unis, la Chine affiche sa bonne volonté en matière de lutte contre le réchauffement climatique, alors qu'elle est le premier pollueur au monde.
Julie-Marie Lecomte en Chine pour France Culture. À l'étranger toujours, en Israël, Benjamin Netanyahou réitère son appel à fermer l'agence d'aide aux réfugiés palestiniens. Le Premier ministre israélien a pris une position moins tranchée que celle de l'administration américaine sur la manière d'assécher l'UNRWA. Il est par contre entièrement d'accord avec l'idée que cette agence de l'ONU en faveur des seuls réfugiés palestiniens est superflue. La correspondance de Marine Vlaovic en Israël.
Créée par l'ONU en 1949, l'UNRWA est exclusivement en charge des réfugiés palestiniens. Ceux qui ont fui leur domicile lors de la création de l'État d'Israël en 1948, mais aussi leurs descendants. Au total, il serait ainsi aujourd'hui plus de 5 millions répartis dans une 60aine de camps en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, en Jordanie, au Liban et en Syrie. L'agence onusienne qui fournit essentiellement des services d'éducation et de santé était au début temporaire. Mais son mandat a été constamment renouvelé, car depuis près de 70 ans, et malgré différentes résolutions de l'ONU, la question du droit au retour de ces réfugiés n'a pas été réglée. L'existence même de l'UNRWA perpétue le problème des réfugiés palestiniens, ainsi que le narratif du soi-disant droit au retour, estime ainsi Benjamin Netanyahou, qui demande sa dissolution progressive. Ce qui perpétue la crise des réfugiés, c'est l'échec des différentes parties à régler le problème, a répliqué l'UNRWA. Ces déclarations du Premier ministre israélien interviennent quelques jours après la menace de l'administration américaine de geler sa contribution à l'agence de l'ONU. En 2016, les États-Unis ont apporté 360 millions de dollars, soit un quart du budget de ce programme, déjà en proie à des difficultés financières.
Marine Vlaovic, correspondante de France Culture en Israël. On a appris sa disparition ce matin. France Gall est morte à l'âge de 70 ans. Elle souffrait depuis plusieurs années d'un cancer et avait été hospitalisée le mois dernier à cause d'une sévère infection. France Gall a traversé les époques depuis les années Yéyé jusqu'à aujourd'hui. Des dizaines de morceaux inoubliables, dont celui-ci.
Ne dites pas que ce garçon valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange.
ça nous dérange. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux, et les soldats regardent à vous, simplement sur scène.
Pour en parler avec nous, Mathieu Conquet. Vous êtes le monsieur musique de France Culture. Bonjour Mathieu.
Bonsoir Claire.
Après Johnny, le mois dernier, c'est donc France Gall qui s'en est allée.
Oui, la disparition de France Gall suit de peu celle de Johnny Hallyday, avec qui d'ailleurs elle était montée sur scène exceptionnellement en 2000 pour chanter Quelque chose de Tennessee. Et c'était sa dernière apparition sur scène. Comme Johnny, France Gall sera une idole des jeunes, une figure de Salut les copains dans la France d'après-guerre. Elle incarne un vent de fraîcheur et d'innocence avec ceux qu'Edgar Morin baptisera les yéyés. On la prendra d'abord pour une sorte de Lolita de la chanson. C'est elle qui remporte l'Eurovision en 65 avec Poupée de cire, Poupée de son, et qui chante Annie aime les sucettes sans peut-être percevoir le côté grivois des paroles de Serge Gainsbourg. C'est une période en tout cas souvent difficile, comme elle le dira souvent plus tard dans les entretiens. Et sa carrière prendra un tour très différent après sa rencontre avec l'auteur et compositeur Michel Berger, qui avait contribué jusque-là au succès de Véronique Sanson. On entendait là, il jouait du piano debout. C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs succès de France Gall et de Michel Berger qui disent leur affection pour d'autres chanteurs, pour d'autres musiciens. Alors ici, c'est un hymne à la différence qui fait référence au pianiste Jerry Lee Lewis. Quand ce n'est pas celui qui joue du piano debout, c'est Ella Fitzgerald avec Ella, Ella, ou encore la chanson Évidemment, qui était un hommage à Daniel Balavoine. Si Michel Berger voulait rendre hommage à la chanteuse, France Gall, elle aussi, célébrait avec Ella, Ella, sa passion pour le jazz. Une passion qu'elle aura du mal à faire entendre, notamment à ses débuts. La collaboration et le mariage avec Michel Berger seront pour elle, selon elle, l'occasion de tous les accomplissements personnels et professionnels. On va citer des chansons que tout le monde connaît, que vous connaissez, Claire, qu'on siffle sans y penser parfois, musique, Si maman si, Besoin d'amour, Résiste. Et puis elle triomphera aussi dans la comédie musicale Starmania au Palais des Congrès en 1979. Si la discographie de France Gall sera pour certains discutable, reste que la mort brutale de Michel Berger en 92 portera un coup sérieux à sa production. Même si elle continuera à se produire pendant quelques années, elle renoncera à chanter après la mort de sa fille Pauline en 97. En 2015, elle s'était réinvestie beaucoup dans la comédie musicale Résiste, où elle n'apparaissait, mais qu'en vidéo.
Et au départ, France Gall est née dans la musique ?
Oui, parce qu'elle était issue d'une famille qui vivait déjà tout pour la musique. Son père, Robert Gall, était chanteur et parolier. C'est lui qui avait écrit La Mama pour Charles Aznavour, mais aussi Sacré Charlemagne, que sa fille enregistre en 64. Sa mère jouait du violoncelle. Son grand-père, Paul Berthier, était l'organiste de la cathédrale d'Auxerre. C'était l'un des fondateurs des petits chanteurs à la Croix de Bois. Voilà, elle fera ses premiers succès à 16 ans, France Gall. Et c'est son directeur artistique qui suggère à Isabelle Gall de s'appeler France, pour ne pas la confondre avec une autre chanteuse à l'époque, Isabelle Aubray, et c'est lui encore qui lui présentera Serge Gainsbourg.
Est-ce qu'il faut définir France Gall par les hommes qui l'ont entourée ? Et est-ce qu'au fond, France Gall n'a été que la muse de Serge Gainsbourg et de Michel Berger ?
C'est ce qu'on est tenté de penser. On pourrait aller plus loin et rappeler que sans doute, c'est sa rupture avec Claude François qui inspirera, comme d'habitude, ou encore Joe Dassin et Julien Clerc qui composeront pour elle. Manifestement, en tout cas, France Gall sera un catalyseur de talent servi non seulement par Gainsbourg et Berger, mais aussi par des auteurs comme Pierre Delanoë, qui va signer son premier succès, Jacques Lanzmann, Boris Bergman. Et puis, elle s'entoura aussi d'excellents arrangeurs comme Alain Gore, Guerre, David Whittaker. Je vous recommande le très beau Chanson indienne. Et puis je vous recommanderais aussi beaucoup une association Serge Gainsbourg avec Jean-Claude Vanier pour les chansons comme Les Petits Ballons, qui sont vraiment délicieuses. Mais puisqu'on a souvent résumé France Gall à ses chansons légères, je vous propose d'écouter une des très belles chansons que Serge Gainsbourg écrivit pour elle, Attends ou va-t'en.
À peine sorti de la nuit, et tu parles sans rire.
Merci beaucoup Mathieu Conquet, journaliste spécialiste musique sur France Culture. On vous retrouve, je le rappelle, tous les samedis à 19h avec Continent Musique.
Merci à vous.
On termine par la météo. Le temps de demain sera encore bien pluvieux dans le sud-est. Un fort risque d'avalanche concernera les Alpes. Sur l'Aquitaine et le nord du pays, le temps sera plus sec mais gris. 11 départements restent placés en vigilance orange jusqu'à demain 16h. Vigilance orange crue, pluie, inondation et orage. Les températures, les minimales s'échelonneront entre 0 et 4 degrés de la frontière belge à la Bretagne, 4 à 8 degrés sur le reste du pays et jusqu'à 9 à 14 degrés en bord de Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Caroline Benetou.